Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés du média suivant, Le Libraire. Au programme, Histoire de traduction, Chasseur au harpon. Le Libraire craque et les choix de G.D. Curtness et de Jocelyn Siwi. Bonne écoute.
Histoire de traduction. Chasseur au harpon. Un texte de Juliana Léveillé-Trudel, paru le 1er juin 2021 dans le carnet thématique « Je lis autochtone », une initiative de la revue Les Libraires. J'ai découvert le texte de Marcuzzi Patsok par bribes au fil des ans, à travers des exercices de traduction proposés par mon professeur d'Inuttitut, Marc-André Mailleux. Cet enseignant-chercheur, titulaire à l'Institut national des langues et civilisations orientales de Paris, nous présentait de petites phrases, extraites du manuscrit original que nous décodions laborieusement, nous, la gang de nerds inuttitutophiles, qui suivions le cours en visioconférence bien avant que ça ne devienne la norme de Montréal, Edmonton, au Tasiujaq. Si le récit de Marcuzzi Patsok avait déjà été traduit en plusieurs langues, dont le français, toutes ces traductions avaient été exécutées à relais, c'est-à-dire non pas à partir de l'original en Inuttitut, mais bien d'une version réécrite en anglais par l'auteur et fortement influencée par James H. McNeill, son éditeur de l'époque. Beaucoup d'éléments ont été ajoutés pour plaire à un lectorat du Sud. Toute cette idée de nature impitoyable, par exemple, ne se trouve pas dans la version originale. Le mot « nature » n'a même pas d'équivalent en Inuttitut, car notre concept de nature s'oppose notamment à celui de ville, précise Marc-Antoine Mailleux. Désirant offrir une traduction française réalisée directement à partir de l'Inuttitut, le professeur se rend à Inukjuak pour rencontrer Marcuzzi Patsok, qui accepte de travailler sur le manuscrit avec lui. Le duo fait équipe avec Valérie Enetiuk, professeur de littérature et de traductologie à l'Université Concordia d'Edmonton, pour offrir une édition critique trilingue, Inuttitut, anglais-français, de Umajur Siotik Unatwinamut, récemment publié chez McGill Queen's University Press. Le texte est également paru en français seulement chez Boréal sous le titre « Chasseur au harpon ». Les lecteurs qui s'aventureront dans ce livre considéré comme la première publication inuit de fiction feront connaissance avec Kamik, un jeune chasseur cherchant à éliminer un ours malade qui terrorise sa communauté. Bien que le récit puisse sembler tragique, Marc-Antoine Mailleux refuse de lui accoler l'étiquette de tragédie. Dans une tragédie, on trouve la dimension du destin qui s'acharne sur le protagoniste. Ce n'est pas le cas dans Chasseur au harpon. Il n'y a pas de force transcendante et le héros garde son agentivité. On pourrait dire la même chose de l'auteur lui-même, qui n'a jamais considéré que son existence était tragique. Malgré les drames qui ont ponctué sa vie, il répétait tout le temps « I've had such a lucky life », raconte Valérie Enetiuk. Et pourtant, à l'âge de 12 ans, en 1953, il faisait partie du groupe d'Inuit envoyés de force dans le Haut-Arctique pour renforcer la souveraineté canadienne dans la région. L'année suivante, il était expédié seul dans un hôpital du Manitoba pour y faire soigner sa tuberculose. Il a découvert le cinéma quand il était au sanatorium. Il a visionné plusieurs films. Ça se sent dans son écriture. Il y a un aspect cinématographique, explique la traductrice albertaine, qui remarque aussi l'influence majeure de la littérature orale inuite. Les histoires inuites ont souvent des fins très choquantes, même lorsqu'elles s'adressent aux enfants. Pas de « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants », donc sous la plume de Marcusi. La conclusion du texte en surprendra peut-être quelques-uns, mais Marc-Antoine Mailleux invite les lecteurs à ne pas interpréter la fin à la lumière de la littérature occidentale. Aujourd'hui, les sociétés inuites voient le suicide différemment, mais durant la période pré-contact, le suicide faisait davantage partie de la vie. Il y avait peu de réseaux d'intégration pour rattacher l'individu à la société, et les chances de se sentir seul au monde étaient plus grandes. Marcusi Patsok, décédé d'un cancer en mars 2020, n'aura malheureusement pas vu cette dernière édition. Les deux traducteurs souhaitent que cette version permette à l'œuvre de poursuivre son rayonnement et d'être considérée à sa juste valeur littéraire. Son travail a beaucoup été dévalué. Certains ont prétendu que Marcusi n'avait que retranscrit des légendes entendues dans son enfance, alors qu'il a réalisé un véritable travail d'écriture, qu'il a complètement inventé cette histoire en s'inspirant d'éléments de la tradition orale, rappelle Valérie Enitiouk. Il n'avait eu accès qu'à très peu de textes littéraires avant d'écrire le Harpon, mis à part quelques bandes dessinées. Il n'avait pas de modèle. C'est très impressionnant. De plus, il a écrit ce texte directement en Inuktitut, ce qui est extrêmement rare. Son récit a souvent été catégorisé comme étant de la littérature jeunesse, renchérit Marc-Antoine Mailleux. Peut-être à cause du personnage de l'ours, qui a une pensée, un point de vue qui lui est propre, mais ce n'est pas un choix littéraire. C'est simplement représentatif de la compréhension inuite du monde. Les animaux ont une apparence physique différente de celle des humains, mais une subjectivité similaire à la leur. Alors que pour les Occidentaux, c'est plutôt l'inverse. Le temps d'une balade dans la toundra avec le chasseur au harpon, il fait bon changer de perspective imaginaire et géographique sur ce territoire immense que Tamusik Mak, auteur du premier dictionnaire de définition en Inuktitut, décrivait ainsi « un grand pays occupé par des animaux ». C'était « Histoire de traduction chasseur au harpon », un texte de Juliana Léveillé-Trudel paru le 1er juin 2021 dans le carnet thématique « Je lis autochtone », une initiative de la revue « Les libraires ». Les libraires craquent. Les suggestions de vos libraires indépendants, parues le 1er juin 2021 dans le carnet thématique « Je lis autochtone », une initiative de la revue « Les libraires ». Roux-garou. Chérie Dimaline, traduction Laurie Saint-Martin et Paul Gagné, Boréal. Quel univers que celui de Chérie Dimaline! Quel talent aussi pour en faire chatoyer ainsi toutes les nuances, intenses, vives et d'un rythme soutenu. La plume défile et offre une histoire dont on ne peut se laisser distraire bien longtemps tant on est happé par la quête de Joanne. Joanne, dont le mari a disparu après leur toute première dispute, fouille partout pour le retrouver, même après un an. Lorsqu'elle l'aperçoit, en révérant convaincu, elle ne peut croire qu'il soit maître de lui-même. Avec en toile de fond la légende métisse du roux-garou, personnage tantôt féroce, tantôt bienveillant, Joanne, aidée de son neveu et de la vieille agent, devra puiser en elle toute sa force afin de contrer l'ennemi qui menace de briguer son cœur et son âme. Chantal Fontaine, de la librairie moderne, Saint-Jean-sur-Richelieu. Bleuet et abricot. Natacha Canapé-Fontaine, Mémoire d'encrier. Bleuet et abricot est une ode à la nature, au territoire et aux origines qui alternent entre espoir et douleur. Digne descendante de Miron, l'écrivaine, n'entre pas dans ton âme avec tes chaussures » et « Comédienne, unité 9 », Natacha Canapé-Fontaine nous fait entendre les voix multiples qui la caractérisent, à la fois militante, femme et autochtone. Un recueil magnifique et accessible qui hisse l'auteur Innu parmi les incontournables de la poésie d'ici. Audrey Martel, de la librairie L'Exèdre, Trois-Rivières. Femme rivière. Caterina Vermette, traduction Rose des Prés, prise de parole. Après avoir gagné le prix du gouverneur général pour son premier recueil de poésie, Ballade d'amour du North End, la très talentueuse Caterina Vermette revient en force avec Femme rivière, une œuvre tout simplement magique. Dans chacune des quatre parties que compose le recueil, l'auteur métisse rend hommage à cette fameuse rivière, la rivière Rouge, avec grâce et douceur. Elle observe la relation qu'elle entretient avec la nature, mais aussi celle avec la culture métisse, notamment avec les traditions et la langue Anishinaabemowin. Grâce à sa superbe plume, Vermette aborde non seulement des questions plus personnelles, mais n'hésite pas non plus à aller dans le politique. Espérons que la voix douce et puissante de Caterina Vermette se fasse entendre. Camille Gauthier, de la librairie Le Furteur, Saint-Lambert. Crocs fendus. Tania Tagac. Traduction Sophie Voileau, Alto. Empreint d'une prose sauvage et enracinée, le premier roman de l'artiste Tania Tagac est une véritable plongée en apnée dans le quotidien d'une enfant, puis ado, puis mère, au Nunavut. Dans un univers où l'alcool, la drogue et les agressions sexuelles sont banalisées, l'enfance se conjugue avec survie et résilience, acceptation et rébellion. C'est au cœur de son intimité que l'on s'insère, dans cette turbulence émotionnelle qui se mêle d'un réalisme cru à une mythologie profondément intrinsèque. Et cette voix, qui s'autorise et revendique la liberté, si puissante et colorée, est envoûtante. L'auteur offre un récit farouche et authentique qui alterne avec la poésie, nous dévoilant la richesse du monde des esprits autant que la difficile condition féminine. Chantal Fontaine, de la librairie moderne Saint-Jean-sur-Richelieu. Quessipan, Naomi Fontaine, Mémoire d'encrier. Premier roman de l'auteur innu Naomi Fontaine, qui a depuis publié Manikanetish et Shuni, Quessipan brosse par touches successives le tableau de la vie quotidienne des habitants de la communauté innu d'Ouachat. La peur, le silence et la détresse côtoient la splendeur de la baie, la plénitude qu'apporte le chemin vers la tradition. Les nombreux fragments qui constituent le roman sont criants de réalisme, dénués de sentimentalisme, mais toujours empreints d'une triste beauté. L'écriture de Fontaine nous habite longtemps. Même une fois que nous avons fini la lecture, une voix incontournable de la littérature des Premières Nations. Cassandre Sioui, de la librairie Anénorak, Wendake. Chauffer le dehors. Marie-André Gilles, La Peuplade. Chauffer le dehors, c'est un cadre de porte dans lequel se bousculent désirs et craintes, désœuvrés et indécis, sans savoir s'ils veulent entrer ou sortir. On s'y retrouve dans la simple ambivalence de l'entropie. C'est l'histoire de la porte du poêle à bois qu'on ouvre quand il ne reste que de la braise et de celle du camp, béante, parce que ça devient trop bouillant en dedans. C'est aussi l'ouverture d'un passage vers le sensible, qui habite chaque chose autour, parce qu'il vaut mieux prévenir que de ne pas entendre cogner. Chauffer le dehors, c'est le souvenir encore chaud d'une coupe de café instant Maxwell House qui a passé la journée dans le thermos. Une poésie douce et cruelle qui parle d'amour, de temps et de vent. Toby Germain, anciennement de la librairie Pantoute, Québec. Vous écoutez Les libraires craquent, les suggestions de vos libraires indépendants, paru le 1er juin 2021 dans le carnet thématique Je lis autochtone, une initiative de la revue Les libraires. Q. Chloé, je te salue. Natacha Canapé-Fontaine et Denis Ellis Béchard, Éco-Société. Cet échange épistolaire entre deux érudits, Natacha Canapé-Fontaine et Denis Ellis Béchard, bouscule tous les non-dits et le mutisme des Québécois sur la question autochtone. Comment peut-on vivre ensemble sans connaître et respecter l'histoire de l'autre? S'interroge Denis Ellis Béchard, capable de saluer les autres en plusieurs langues étrangères, mais qui ne connaît pas, comme la plupart de ses pairs, un seul mot inou. Le traumatisme est cellulaire. Des générations détruites par l'aveuglement des gouvernements à la colonisation, le génocide, les pensionnats, les viols, les enlèvements, la crise d'Oka, tout y passe. Sans compter la résistance d'un peuple et sa forte résilience. L'acculturation y est tellement forte que Natacha Canapé-Fontaine ne parlait plus sa langue maternelle. Un livre choc à transmettre à toutes les générations. Anne Kishinapapanaidou, anciennement de la librairie de Verdun, Montréal. Youish quelque part. Joséphine Bacon, Mémoire d'encrier. Youish quelque part, c'est en fait une ode à l'immensité du territoire, à la vie, avec ses silences et ses amitiés. C'est marcher dans le sillage merveilleux du quotidien de Joséphine Bacon, c'est partager le souvenir d'une amie inoue. Je suis toujours en admiration devant la simplicité parfaite de chaque mot, des vocables qui nous touchent droit au cœur. L'auteur, qui a également publié « Un thé dans la toundra », nous livre ici un recueil de poésie bilingue en français et en inuaïmoun qu'on lit avec délectation. Je n'ai pas la démarche féline. J'ai le dos des femmes ancêtres, les gens barqués, de celles qui ont partagé, de celles qui accouchent en marchant. Annie Proulx, de la librairie A à Z, Bécomo. Cheval indien. Richard Wagamez. Traduction Laurie Saint-Martin et Paul Gagné, XYZ. C'est avec une grande sensibilité que Richard Wagamez raconte l'histoire de Saul Cheval indien. Ce jeune Ojibwé a grandi selon les coutumes anciennes de son peuple. Grâce à sa grand-mère, il a appris les légendes et les chants traditionnels. Malheureusement, après avoir fui le froid hivernal, il se retrouvera seul et sera confié aux pensionnats autochtones. En quittant son monde, il fera face à une réalité dure et sans espoir. Peu à peu, le jeune garçon se repliera sur lui-même, puis un jour, un nouveau prêtre lui transmettra sa passion pour le hockey et Saul pourra enfin se libérer. Ce roman m'a touché à plusieurs égards, mais principalement en raison de la force et de la résilience du personnage principal. Quand la tendresse d'un jeune garçon confronte l'effroyable vérité de cette époque. Émilie Bolduc, de la librairie Le Fureteur, Saint-Lambert. Petite femme montagne. Thérèse-Marie Maillot, traduction Annie Pronovo, Marchand de feuilles. Les éditions Marchand de feuilles, qui font un travail remarquable, nous offrent un récit de Thérèse-Marie Maillot, une auteure autochtone de la Colombie-Britannique. Cette dernière qualifie ce premier livre, Petite femme montagne, de mémoire. On y découvre son enfance difficile, une relation mère-fille complexe et sa vie adulte marquée par la maladie mentale. À travers son écriture intime et poétique, elle dévoile aussi une certaine réalité autochtone. Elle évoque la vie qui est la sienne de façon franche, sans jeter la pierre à personne. Le tout est rythmé par des phrases courtes et succinctes, comme on raconterait un souvenir. Héléna Laliberté, de la librairie La Liberté, Québec. Champion et Hunemitu. Thompson Highway, traduction Robert Dixon, prise de parole. Avec son écriture touchante et sa touche humoristique, Highway nous invite dans la vie de deux jeunes garçons cris du nord du Manitoba. Vous les suivrez à travers les méandres de leur jeunesse dans les paysages du Nord canadien, puis dans le réalisme des pensionnaires autochtones, jusqu'à l'âge adulte où ils s'épanouissent et prennent des directions inattendues. Avec Champion et Hunimitu, son premier roman, Ai Weh nous plonge dans un récit moderne de la vie de jeunes autochtones du Canada où le choc des cultures est encore bien présent. Daniel Siwi de la librairie Haninorak Wendake. La course de Rose, d'Anne Dumont, traduction Daniel Grenier, Haninorak. Une histoire qui fait sourire, ça fait du bien, vraiment. Rose Okanez, fraîchement séparée d'un mari immature, se secoue les puces et s'empare une fois pour toutes de son destin. Elle se surprend à dire qu'elle court et se met à y croire elle-même ce qu'elle fera chaque jour en vue d'un marathon qui arrive trop vite. Mais lorsque la rêveuse, issue d'une légende propre à la réserve, refait son apparition, la petite communauté est en émoi. Toutes les femmes semblent sous son emprise, et si Rose ne se laisse pas happer, c'est autant par sa force de caractère que pour protéger ses filles. Danne Dumont nous invite dans une aventure rafraîchissante, délicieusement rythmée, captivante, empreinte d'humour et de personnages aussi spontanés que colorés. Chantal Fontaine, de la librairie moderne, Saint-Jean-sur-Richelieu. C'était « Les libraires craquent, les suggestions de vos libraires indépendants » paru le 1er juin 2021 dans le carnet thématique « Je lis autochtone », une initiative de la revue « Les libraires ».
Les choix de J.D. Kurtness et de Jocelyn Siwi. Un texte de José-Anne Paradis paru le 3 juin 2022 dans le carnet Je lis autochtone, une initiative de la revue Les Libraires. J.D. Kurtness et Jocelyn Siwi étaient les porte-parole de l'édition 2022 de l'initiative Je lis autochtone. Pour l'occasion, ils nous proposaient chacun un livre à découvrir. La suggestion de J.D. Kurtness. Dumont est une de mes écrivaines préférées, toutes nationalités confondues. Perle de verre, Haninorak, raconte l'histoire de quatre amis, échelonnés sur deux décennies. Une écriture pétillante d'intelligence détaille les péripéties de ces personnages faillibles, mais tellement humains, forcés de quitter leur communauté pour améliorer leur sort. Comme des perles dans un motif, les courts chapitres font état des victoires et des échecs, où le tragique côtoie l'humour et l'amitié tricote les familles qu'on se choisit. Dumont prouve l'ampleur de son talent avec ce troisième roman plus acéré que ses deux premiers, On pleure pas au bingo et La course de Rose. Ici, les yeux de l'enfance ou le surnaturel ne dorment plus la pilule, mais on retrouve avec joie la sensibilité et l'autodérision de Dumont. J.D. Kurtness est né en 1981 à Chicoutimi, d'une mère québécoise et d'un père innu de la communauté de Mashtoyatch. Elle a signé deux ouvrages qui ont trouvé de chaleureux échos. De vengeance, 2017, l'histoire d'une tueuse en série dont la carrière débute dès ses 12 ans et qui est, paradoxalement, aussi méchante que sympathique. Et Aquarium, 2019, un roman d'anticipation polyphonique dont l'intrigue tourne autour d'un vilain virus destructeur. Récemment, elle signait la nouvelle « Bienvenue, Allison », 2022. La suggestion de Jocelyn Siwi. Je vous propose « Enfant du lichen » de Maya Cousineau-Molène, Haninorak. Quand je lis sa poésie, j'ai l'image d'un long portage qui me rappelle la résilience autochtone. Il y a beaucoup de similitudes entre la résilience et le portage de canot. Courir avec un canot sur le dos, c'est possible sur une courte distance. mais pour traverser des dizaines de kilomètres, courir avec une embarcation au-dessus de la tête nous tue avant l'arrivée. Il faut donc marcher, le poids sur l'échine. Maya me rappelle les milliers de kilomètres parcourus sans courir pour ne pas se faire avaler par ce monde qui espérait notre fin. Pour revoir la rivière et la parcourir, enfin. Sans fin. Cette douceur entêtée ancrée dans le cœur. La résilience se marche sur des milles et des milles. Les mots de Maya voguent entre rage sourde et espoir de lumière. Ils sont aujourd'hui et hier. Ces deuils, ces histoires personnelles, celles des femmes autochtones oubliées, résonnent dans les vers qu'elle écrit. Jocelyn Siwi, comédien, dramaturge, marionnettiste et écrivain Wendat, est membre fondateur de Belles et Brutes, bande de théâtre. Il est aussi le fondateur et le directeur de OUF, festival off-castelier consacré aux arts de la marionnette. Il a publié l'essai biographique « Mon oncle Jules » 2020 et le conte « Frétillant et agile » 2022 aux éditions Anenorak. C'était « Les choix de J.D. Kurtness et de Jocelyn Siwi », un texte de Joséanne Paradis paru le 3 juin 2022 dans le carnet Joli autochtone, une initiative de la revue « Les libraires ».
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage et André Lebeau à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.